7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation, comme chaque semaine. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi et comment les universités américaines se déchirent à propos de la liberté d'expression. Des professeurs dénoncés par les étudiants sur les réseaux sociaux sont licenciés pour des propos choquants relatifs au racisme, au sexisme ou aux droits des LGBT. Une nouvelle génération d'étudiants plaide le droit de faire honte pour mieux promouvoir la justice et l'égalité. Alors est-ce une atteinte à la liberté intellectuelle et académique des campus américains? Où doit s'arrêter la liberté d'expression des professeurs d'université? Les réseaux sociaux servent-ils les droits des minorités dans les campus américains? Les voisins, les voisines, vous avez la parole si vous souhaitez questionner nos invités sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Avec nous dans l'émission, Audrey Célestine, bonjour. Audrey Célestine, est-ce que vous nous entendez bien? Vous êtes en liaison avec
nous.
Oui,
je vous entends.
Bonjour Audrey Célestine, vous êtes à Fort-de-France aujourd'hui, vous n'êtes pas dans le studio des 7 milliards, c'est dommage. Vous êtes sociologue spécialiste des États-Unis à l'Université de Lille et vous avez publié « Des vies de combat, femmes noires et libres » aux éditions de l'Iconoclaste. À mes côtés, Alessia Lefebure, bonjour.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Vous êtes sociologue vous aussi, vous avez enseigné pendant 6 ans à l'Université Columbia de New York. Vous êtes spécialiste des politiques de l'enseignement supérieur comparé à l'EHESP, qui est l'école des hautes études en santé publique à Sciences Po et à Columbia University. Et puis en fin d'émission, comme chaque semaine, les conseils du psychologue Ibrahim Haïdara, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, il nous parlera des enfants dans les familles recomposées.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et tout de suite, pour lancer la discussion sur les universités américaines, écoutez Daniel Kovalik, avocat américain des droits de l'homme. Il enseigne à l'université de Pittsburgh en Pennsylvanie et il a récemment publié un livre non traduit, Cancel This Book, supprimer ou effacer ce livre, en référence au débat sur la cancel culture. Daniel Kovalik a pris la plume après un incident qui s'est déroulé dans sa ville à Pittsburgh. Il était joint par Charlie Dupio. Il nous raconte.
Il y a une activiste pour la paix de longue date ici qui s'appelle Molly Rush. Elle a aidé à fonder le Thomas Merton Center ici à Pittsburgh il y a plus de 50 ans. C'est l'une des plus anciennes organisations pour la paix et la justice aux États-Unis. Et l'été dernier, pendant les manifestations après la mort de George Floyd, elle a posté un meme sur Facebook. C'était assez simple. On voyait la photo de Martin Luther King sur laquelle on pouvait lire « N'a jamais pillé, n'a jamais manifesté violemment, a changé le monde ». Le message, c'était que si on voulait manifester sur ces sujets actuels, contre la brutalité policière et pour l'intégration raciale, mieux valait le faire de manière pacifique. Car il y a eu des incidents, un certain nombre d'incidents autour de ces manifestations. Il y a eu de la violence et des attaques contre des entreprises appartenant à des minorités. Et pour elle, pour Molly Rush, ces incidents ont fait du mal au mouvement. Je pense que c'est ce qu'elle a voulu souligner. Dans tous les cas, les gens ont réagi très rapidement sur Facebook, l'ont attaqué, l'ont traité de raciste, ont traité sa famille de pauvre blanc, de pouilleux. Elle a fini par retirer son poste et par s'excuser publiquement sur Facebook. Mais là, et c'est généralement le cas avec la cancel culture, cette culture de la suppression, s'excuser ne suffit pas. Et parfois même, s'excuser peut enflammer la situation. Donc cela ne suffisait pas pour ses adversaires qui continuaient d'appeler à ce qu'elle soit punie. Et là, le Thomas Merton Center a sorti une lettre publique stipulant qu'à cause de ce mème, il ne pourrait plus travailler avec elle et qu'il devait se dissocier d'elle. Cela s'est passé très vite, en quelques jours. Et nous voyons ça tout le temps, ce harcèlement. C'est le mot que j'utiliserais, car pour moi, c'est une forme de harcèlement qui se fait passer pour de l'activisme.
Et vous avez dédié ce livre sur la cancel culture à cette femme, à Molly Rush.
Yes.
Oui, parce que j'ai travaillé avec elle pendant 30 ans pour défendre la justice raciale. Elle a tenu des piquets de grève pour soutenir les travailleurs afro-américains qui n'avaient pas le droit d'avoir des emplois dans la construction aux États-Unis. Elle s'est battue avec eux. Mais la plupart des gens qui l'ont attaquée, ça aussi, ça fait partie du phénomène, la plupart n'avaient pas connaissance de son passé, de ce qu'elle avait accompli. Dans ce cas comme dans d'autres, c'était des progressistes, des gens de gauche qui attaquent et qui veulent effacer d'autres gens de gauche. Et c'est le phénomène étrange de la cancel culture, c'est qu'ils dévorent et divisent la gauche américaine. Dans le monde universitaire, par exemple, ce sont les professeurs qui sont attaqués par leurs étudiants. Il y a une professeure qui, l'été dernier, encore au moment des manifestations pour George Floyd, a semblé s'être assoupi pendant une visioconférence sur Zoom au sujet de la diversité raciale. Les étudiants ont demandé à ce qu'elle soit virée parce qu'elle s'était endormie ou parce qu'en tout cas, ils ont pensé qu'elle s'était endormie. Cette cancel culture est très commune sur les campus américains. Pour moi, c'est un phénomène vraiment lié à l'élite.
Et sur quel sujet cette cancel culture, donc cette culture de l'effacement, s'exerce en général ?
Le racisme, le sexisme et les questions liées aux droits des personnes transgenres. Sur ce dernier sujet, J.K. Rowling, la romancière qui a écrit la saga Harry Potter, est un bon exemple, elle qui a été accusée d'être transphobe. Et même certaines personnes trans peuvent s'attaquer à d'autres personnes trans parce qu'elles ont une vision différente de ce que cela veut dire d'être transgenre.
Comment dénoncer cette cancel culture comme vous le faites et en même temps défendre malgré tout les droits des minorités qui, aux États-Unis, s'expriment de plus en plus ? On imagine que c'est une position qui est difficile à tenir.
Je dirais que c'est dur de dénoncer cette culture de la suppression sans être soi-même supprimé. Par exemple, si je reviens à l'affaire Molly Rush, dont on parlait tout à l'heure, je connais plein de gens qui ont vu ce qui se passait et qui ont été horrifiés par la façon dont Molly a été traitée. Mais très peu se sont avancés pour la défendre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu peur d'être eux aussi attaqués. Car on devient vite coupable par association. Ça, je pense que c'est un gros problème. Mais je ne pense pas que dénoncer la cancel culture telle qu'elle est menée soit anti-éthique aux droits des minorités ou que cela irait à l'encontre de leur lutte. En fait, je pense le contraire. Pour moi, la façon dont ce phénomène de suppression se répand fait du mal aux luttes, à la lutte pour la justice raciale, par exemple. Parce que cela divise des gens qui devraient être unis pour avancer. Cette culture de la suppression empêche la discussion et le débat d'avoir lieu. Le but de cette cancel culture est de jeter les gens pour ne garder que ceux qui seraient les plus vertueux. Et ça, c'est une des raisons principales pour lesquelles je m'y oppose.
Daniel Kovalik, interrogé par Charlie Dupiau. Je précise que, bien que Daniel Kovalik dénonce la cancel culture dans son livre, il n'a fait l'objet d'aucun lynchage d'ampleur sur Internet. Son livre, donc non traduit, s'intitule « Cancel this book ». Audrey Célestine, universitaire, vous êtes en liaison avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse, avec la description du phénomène de cancel culture qu'a fait Daniel Kovalik ?
Merci beaucoup de me donner la parole sur ce sujet. Non, je suis absolument pas d'accord avec la description qui est faite, mais qui est une description en fait assez typique des dénonciations très vocales et très courantes de ce qui serait une cancel culture. L'affaire dont on parle et qui semble vraiment très fortement émouvoir. Daniel Kovalik, elle est effectivement, enfin, je vois à la fois une histoire tout à fait malheureuse. Je comprends aussi la forme de maladresse qu'il peut y avoir de la part de Molly Rush. Ce qui est décrit est effectivement une exagération, une réaction complètement disproportionnée par rapport à ce qui se passe. Pour autant, comme très souvent lors de la dénonciation de la cancel culture, on prend un événement, un fait divers quasiment, pour ensuite théoriser et parler de tas d'exemples qui seraient du même acabit. Mais sans qu'on ait vraiment de données. En fait, on n'a pas de données, on a des histoires qui marquent les esprits. Une femme de gauche depuis tellement longtemps, tout le monde a sa confiance. Mais de la véritable question face à ce qui est présenté comme une espèce de menace générale sur l'université, sur la liberté d'expression, ça. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Et une politiste américaine qui s'appelle Pippa Norris, qui est professeure à Harvard, a essayé de, justement, d'objectiver un petit peu tout ça, de dire, mais finalement, de quoi on parle quand on parle de cancel culture, qu'on dénonce? Et elle indique que, de manière générale, on parle à la fois de respect ou de non-respect de la pluralité dans les débats, de pression à être, entre guillemets, politiquement correcte, notion problématique sur laquelle on pourra revenir, et de la question de la liberté dans l'enseignement et la recherche. Et alors, elle a une enquête qui est très intéressante, qui est accessible en ligne, mais ce qu'elle montre quand même, c'est que le sentiment de ne pas être totalement... De ne pas avoir de pluralité dans les débats, c'est pas du tout un sentiment qui est partagé par l'essentiel des chercheurs ou des enseignants dans l'université américaine, mais qu'en revanche, parmi la frange la plus progressiste des enseignants, qui sont généralement accusés d'être ceux qui véhiculent cette cancel culture, la pression à devoir changer ses cours ou de voir ses cours annulée pour le coup, elle est bien plus importante que ce qui est présenté. Donc il y a vraiment des espèces d'inversion de phénomènes et de non-objectivation, de juste de monter en épingle de faits que je qualifierais de faits divers, même si c'est pas forcément la bonne terminologie.
Alors pour vous, donc là on est dans un combat de dénonciation contre dénonciation, on dénonce ceux qui ont dénoncé. Alessia Lefebure, comment ce débat impacte selon vous la gouvernance des universités, la gestion des professeurs dans le travail des campus?
En effet, pour poursuivre ce que vient de dire Audrey, on tend à faire l'amalgame entre un phénomène, une tendance de long terme d'évolution de la société américaine et la situation spécifique sur les campus des universités américaines. Je dis que c'est spécifique puisque quand on parle de liberté d'expression, elle se décline d'une façon différente au sein d'un campus en liberté académique, qui est à la fois de la liberté de s'exprimer dans le cadre d'un cours, par exemple, et la liberté de recherche qui est le propre des scientifiques de toutes les disciplines. Or, cette tendance lourde qu'on constate d'évolution de la société américaine, évidemment qu'elle se décline dans la composition du corps étudiant. Pour être plus concret, dans l'université américaine, depuis les années 70, on a cherché à diversifier le corps enseignant, le corps étudiant. Il y a eu, je crois qu'on le sait un peu partout, des actions de affirmative action, par exemple, pour introduire des minorités sous-représentées dans le corps étudiant. Or, la gouvernance n'a pas suivi à la même vitesse que la transformation du corps étudiant. Autrement dit, en fait, sans s'en rendre compte, on a changé la sociologie, la composition. On a aujourd'hui des groupes qui étaient autrefois minoritaires qui sont visibles et qui prennent la parole. Et le board des universités, le board of trustees, qui sont en fait les conseils d'administration dans lesquels sont représentés en fait les financeurs, par exemple, eux, ils n'ont pas changé de composition.
C'est-à-dire hommes blancs de plus de 50 ans, grosso modo, pour caricaturer.
Pour être caricaturé. Oh, oui, oui. Mais le corps enseignant a changé aussi dans une très moindre mesure par rapport au corps
moins vite. Du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une réelle peur des professeurs dans l'exercice de leur métier de se retrouver cancel, de se retrouver lynché sur Internet ou pas?
Alors, la peur, moi, il me semble, d'après ce que j'ai observé dans mes années américaines, c'est que la peur ne vient pas tant du fait que les étudiants s'expriment et demandent éventuellement des rectifications, enfin tout ce qu'ils demandent, parce qu'il y a des façons de canaliser ces demandes, de les entendre, ou de créer, comme on a dit, comme on parle des safe spaces, les espaces sûrs. En revanche, la peur vient du fait que l'administration de l'université puisse suivre ces demandes des étudiants. Autrement dit, un enseignant a besoin de se sentir protégé par son institution dans l'exercice légitime et légale de sa liberté d'enseignement et de recherche. Dès lors que l'université commence à prendre des mesures qui ne lui montrent plus son support, c'est-à-dire les étudiants demandent que quelqu'un prenne une retraite anticipée, qu'il soit viré, et l'université dans ce cas suit, à ce moment-là, la peur s'installe et c'est un phénomène, c'est un cercle vicieux, c'est une spirale qui va porter atteinte, mais on y reviendra plus tard certainement sur le métier même de l'enseignant et la mission même de l'université.
Audrey Célestine, vous diriez que les réseaux sociaux, évidemment, jouent un rôle d'amplificateur de ces demandes des étudiants, parce que traditionnellement, les étudiants, de toute façon, ont toujours, depuis très longtemps, noté les professeurs dans les campus américains. C'est un système qui est bien connu. Aujourd'hui, est-ce qu'on a franchi des limites ou pas, à votre avis?
Alors, là, encore une fois, comment l'expliquer? Dans ces demandes, qui sont fortement relayées sur les réseaux sociaux, il y a effectivement toute une dimension de ce qu'on peut désigner comme le call out, le fait de demander publiquement finalement à quelqu'un d'être responsable, de se tenir devant ses paroles sur certains sujets. Ce qui est quand même important, je pense qu'il faut le replacer tout ça dans plusieurs choses. D'une part, et je pense qu'Alicia pourra en parler bien mieux que moi, le fait que dans un certain nombre d'universités, le rapport entre enseignants et étudiants a quand même beaucoup changé depuis plusieurs années, avec la montée des frais de scolarité. Enfin, je veux dire, dans le cas de Columbia, et je pense qu'elle pourrait donner des exemples, il y a aussi une certaine pression
de celui qui paye, c'est-à-dire
sur les enseignants, sur la question,
l'étudiant est un consommateur,
mais qui ne va pas forcément dans le sens d'un alignement nécessaire des enseignants sur des vues extrêmement progressistes sous la pression de leurs étudiants. Ça, c'est aussi une construction telle qu'elle est faite par une partie de la droite américaine, etc. Un phénomène qui est beaucoup moins visible sur les réseaux sociaux, même s'il a gagné un peu en visibilité ces derniers temps avec l'affaire de Nicole Anna Jones, qui est cette journaliste à qui a été donné un poste à l'Université de Caroline du Nord, une chaire de journalisme, mais à laquelle n'a pas été donnée la tenure, qui est une sorte de confirmation, et que c'est la première femme à ne pas avoir obtenu cette chaire pour des raisons qui étaient clairement des raisons idéologiques, sont sorties un certain nombre d'affaires d'enseignants, souvent des enseignantes, des femmes appartenant à des minorités, et qui, de manière beaucoup plus silencieuse, se voient non confirmées sur des postes, etc. Et ce danger-là, qui fait l'objet de protestations beaucoup moins vocales, moi, il me semble beaucoup plus important et problématique pour le pluralisme qu'un certain nombre de cycles comme ça, de protestations véhémentes qu'il peut y avoir sur Internet, mais qui partent d'Internet, notamment de la part de populations minoritaires, parce que Internet et les réseaux sociaux constituent largement, pour les populations minoritaires, des instruments d'expression qui n'existent pas par ailleurs. Donc je pense que un des problèmes dans tout ça, c'est qu'on a l'impression, voilà, que les enseignants ne peuvent plus rien dire, parce que de suite les étudiants vont prendre les réseaux sociaux et qu'ils vont se faire attaquer, et que on parle de lynchage médiatique, ce qui, dans le contexte américain, me semble en plus particulièrement malheureux. Souvent c'est un petit peu plus compliqué que ça, et les manières, les formes de mise à l'écart de certaines idées, de certaines opinions, de certaines manières de faire de la recherche, telle qu'elle se déploie véritablement, ça se fait de manière un petit peu plus discrète que par des simples campagnes sur Twitter. Donc moi, j'analyserai pas ça uniquement en termes de est-ce que ça va trop loin ou est-ce que ça va pas assez loin. Genre, de quoi est-ce le nom exactement? Est-ce que toutes les affaires se ressemblent véritablement? Est-ce que c'est vraiment ça le problème de l'université aujourd'hui?
Et finalement, ça serait au gré des époques, simplement une peur qui change de camp, Alessia Lefebure?
Oui, on peut dire ça. En fait, je pense que c'est peut-être, pour que ça soit clair pour tout le monde, je crois que c'est fortement lié à ce qu'aujourd'hui une université aux États-Unis, ce qui est très différent de ce qu'une université dans d'autres pays, notamment les pays francophones, que ce soit en France ou ailleurs. Une université américaine, privée ou publique, est une université qui a un modèle économique assez unique, qui est basé sur, vous l'avez rappelé, Emmanuel, sur les frais de scolarité, mais pas seulement et pas majoritairement. Elle est basée essentiellement sur du financement par des dons. Et les dons sont, contrairement par exemple à la France, non pas des entreprises qui donnent, mais des mécènes individuels. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, on transforme l'étudiant ou le donateur en client, qui doit s'exprimer dans un contexte particulier américain qui est fondé sur la liberté de choix. Rappelons-nous que la définition de liberté aux États-Unis, selon le premier amendement de la Constitution de 1791, est très forte. C'est vraiment un pays qui fonde tout sur la liberté d'expression, liberté de choix. Donc, à partir de là, ce n'est pas un phénomène nouveau que les étudiants, effectivement, comme l'a dit Audrey, puissent s'exprimer, choisir, etc. Mais dès lors qu'il y a des problèmes qui touchent l'image de marque et qu'une université, un président d'université imagine un danger possible sur le fait de recruter certains étudiants parce que son université est perçue comme hostile, par exemple, à une minorité religieuse ou à une minorité d'orientation sexuelle, etc., alors il peut y avoir des comportements de prudence excessive. C'est vraiment c'est fondamental. On ne veut pas froisser les sensibilités, d'une part, de certains étudiants potentiels, qui ne sont pas forcément les minorités visées. Par exemple, on a dit beaucoup que les élites blanches progressistes sont peut-être encore plus sensibles. Par exemple, je peux être une élite blanche progressiste et imaginer que l'université de mon choix a des comportements racistes vis-à-vis de minorités noires, par exemple, et je n'y vais pas. Et ça va être moins minorité, enfin, majorité blanche.
On a du mal à vous suivre.
C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément les minorités qui vont exiger ces comportements propres de la part des universités. Ça peut être encore les élites blanches qui se réclament des droits des minorités dominées.
Au nom de valeurs.
Au nom de valeurs.
Universelles.
Voilà. Donc, c'est, oui, exactement. Au nom de valeurs universelles. Donc, elle demande de cette accountability, cette responsabilité de l'université. Mais effectivement, si ça paralyse l'essence même de la nature de ce que c'est une université, eh bien, à ce moment-là, ça pose problème.
Vous restez avec nous toutes les deux, Alessia Lefebvre, Audrey Célestine. On essaye de mieux comprendre comment fonctionnent ces campus américains et surtout comment ces débats sur la cancel culture altèrent plutôt la liberté d'expression. Est-ce que d'ailleurs, il faut parler de censure ou pas du tout? On en discute et bien sûr, vous pouvez aussi nous poser des questions, les voisins, les voisines, au 33-7 64, 45, 51, 41. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. You never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. And started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots. Dr. Dre's dead, he's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, 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 Slim Shady, I'm sick of him. Look at him, walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips, my bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman... is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who put other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women wave your pantyhose, sing the chorus and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Will Smith don't got a cuss in his rap to sell records. Well, I do, so f*** him and f*** you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? So you guys can just lie to get me here, so you can sit me here next to Britney Spears? Christina Aguilera better switch me chairs so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave to first. Little put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. I said download her audio on MP3 and show the whole world how you gave Eminem. I'm sick of you little girl and boy groups. All you do is annoy me, so I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a f*** like me, who dress like me, walk, talk, and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Vous écoutez RFI, c'est 7 milliards de voisins, nous sommes en direct et on s'interroge sur ce qui se passe, sur les débats qui déchirent les campus des universités américaines, peut-être pas toutes les universités, mais un bon nombre d'universités américaines. On en discute avec vous, Audrey Célestine, sociologue, spécialiste des États-Unis à l'université de Lille. Vous avez publié « Des vies de combat, femmes noires et libres » aux éditions de l'Iconoclaste. Et Alessia Lefebure, vous avez enseigné 6 ans à l'université Columbia à New York. Vous êtes partie il y a peu de temps d'ailleurs, hein, il y a 4 ans. Et vous êtes également sociologue. Audrey Célestine, vous nous le disiez, finalement, la liberté d'expression, elle a toujours été menacée dans les campus américains. Alors autrefois, par le pouvoir politique, par le pouvoir religieux. Aujourd'hui, ce sont les étudiants eux-mêmes hein, qui essayent de peser sur le contenu des cours, des professeurs. Est-ce que vous diriez qu'il y a un conflit générationnel aussi derrière ces débats ou pas? Parce qu'Alessia Lefebure nous disait, en fait, c'est juste que la population étudiante, la clientèle étudiante a énormément évolué ces dernières années aux États-Unis avec une plus large représentation des minorités.
Alors, je me suis peut-être mal fait comprendre, mais je ne dis pas du tout qu'il y avait une menace hier, qu'il continue à y avoir une menace aujourd'hui. Moi, je pense que les notions de cancel culture sont de manière générale utilisées pour délégitimer des formes de parole et d'action, notamment sur les campus états-uniens. Donc, je suis pas du tout... Je tiens quand même à ce que ce soit très clair. Je ne pense pas qu'a priori, et comme ça, une menace sur la liberté d'expression. Je pense que les universités, en dépit des transformations importantes qui interviennent et qui ont été expliquées tout à l'heure par Alessia, sont des espaces qui restent des espaces de discussion, de débat, de recherche, ouais. Et que là, l'enjeu, c'est, mais finalement, qui définit et qui a une voix sur les opinions qui vont être majoritaires ou pas. Et c'est des enjeux de débat, c'est pas simplement des enjeux d'annulation de personnes.
Bien sûr. Non, mais vous faisiez allusion à une réalité.
C'est pas juste un champ de bataille.
Bien sûr, Audrey Célestine, je reprenais ça parce que vous faisiez allusion à une réalité qui concerne par exemple des femmes universitaires issues des minorités qui pouvaient être elles-mêmes être en difficulté par la direction de l'université pour des raisons idéologiques ou autres.
Mais parce que de manière générale, la population des femmes noires est extrêmement minoritaire à l'université, mais notamment dans les postes qui sont les postes plus avancés dans la carrière, les postes qui confirment, qui permettent de ne plus être dans une forme de précarité à l'université, et que ce sont aussi souvent des personnes qui, dans les sciences humaines et sociales, travaillent sur le racisme, le féminisme, l'intersectionnalité, etc., etc., et que cette manière cette non-confirmation, ces positions qui peuvent être plus précaires dans l'université, ça a un impact sur le type de recherche qui est faite, sur les enseignements qui sont menés, alors même que ce sont généralement c'est généralement désigné comme un peu les responsables de ces guerres d'idées sur les campus. Donc je disais, en fait, il y a quand même une réalité un peu plus silencieuse dans les universités américaines, qui font que globalement, si vous êtes un homme blanc, centriste aux États-Unis, globalement, ça va, votre vie n'est pas très très compliquée non plus.
Enfin, je veux dire, pour faire une carrière universitaire. Pour faire une carrière dans les gender studies, il vaut mieux être une femme. Et d'ailleurs, ça peut se comprendre. Vous êtes d'accord?
Mais il y a aussi beaucoup moins de postes.
Il y en a plus qu'en France quand même pour travailler sur la question des femmes.
Ce qui est pas compliqué.
Est-ce que l'une et l'autre, pour comprendre si vous êtes sur la même longueur d'onde complètement ou pas, est-ce que la cancel culture menace la liberté intellectuelle académique dans les universités américaines, voire menace la connaissance, Alessia Lefebure?
Alors, pour expliciter effectivement si Audrey et moi on est d'accord, je sens qu'on est d'accord sur beaucoup de choses. Mais néanmoins, ce n'est pas la cancel culture qui menace quoi que ce soit. La cancel culture, c'est le nom qu'on donne, il n'y a pas de définition juridique, c'est le nom que l'on donne. Et d'ailleurs, dans nos pays francophones, on voit d'autres choses que ce qui se dit aux États-Unis.
À des attaques sur Internet, attaques à la réputation, donc, et voire à un licenciement pur et simple,
exactement,
pour un professeur.
Donc, deux, la liberté, les libertés fondamentales, la liberté d'expression et la liberté académique, si on redescend, elles sont tout le temps menacées, bien sûr, comme toute liberté fondamentale. On est toujours en état d'alerte. Nos démocraties peuvent être toujours limitées. Alors, là où je suis d'accord avec Audrey, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer qu'aujourd'hui, c'est impossible de travailler sur un campus américain. Et là encore, on pourra donner des exemples concrets. En revanche, là où je serais peut-être un peu plus explicite, c'est que si on n'y prend pas garde, c'est un phénomène qu'il ne faut pas combattre ou pas, se déclarer pour ou contre, ça n'a aucun sens, c'est comme ça, on l'observe, on le constate. En revanche, on le constate et on l'enregistre et on en tire des conséquences. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, à mon sens, nous appelle, nous, les enseignants et les responsables des universités, à faire des choses, à prendre des mesures en anticipation. Il faut que...
Est-ce que, par exemple, les fameux triggers warnings, c'est-à-dire des messages pour prévenir le public avant un cours qu'il doit se préparer psychologiquement à ce que des sujets potentiellement dérangeants soient abordés, est-ce que ça fait partie des précautions élémentaires quotidiennes d'un professeur d'université aujourd'hui? Et est-ce que c'est un problème qu'ils doivent prendre ces précautions ou pas?
Non, alors ça, effectivement, c'est pour aller dans le sens d'une limitation de la liberté. Bon, voilà, si après il y a des enseignants qui veulent suivre ça, pourquoi pas, dans notre contexte, dans nos pays en général, en Europe, on ne fait pas trop ça.
Vous faisiez ça quand vous enseignez?
Je faisais ça, comme j'enseigne, je parle beaucoup d'Asie, par exemple, il m'est arrivé d'être dans une situation, voilà, je peux donner un exemple concret. J'ai des Chinois dans mon cours.
Population d'étudiants.
Je parle de Taïwan. Comment je parle de Taïwan? Est-ce que je dis que pour moi, Taïwan est un pays. Et je sais que dans ma classe, il va y avoir des Chinois de Chine populaire pour lesquels, juridiquement, Taïwan n'est pas un pays indépendant. Et d'ailleurs, la plupart des pays étrangers ne considèrent pas Taïwan comme un pays indépendant. La France en fait partie. Et donc, comment je traite ça? Donc, je le dis d'emblée. Ce n'est pas forcément un triggering message, mais un warning. Mais je dis quand même... aujourd'hui, moi, je vous parlais de Taïwan et je, personnellement, mais voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je positionne, j'explique, j'explicite. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi, enfin, il y a vraiment une responsabilité individuelle de chaque enseignant et collective de la gouvernance de l'université pour aider les étudiants à affronter toutes sortes de débats. C'est fondamental, puisque n'oublions pas que l'université est le lieu d'apprentissage de deux choses, de la citoyenneté démocratique et l'accès au savoir scientifique. Et dans les deux cas, si on n'a pas accès à la diversité des points de vue, on n'avance pas, on fait du surplace. Sur la démocratie, c'est évident, il faut pouvoir embarquer le pluralisme au sens vraiment très profond pour pouvoir ensuite voter et choisir. Le vote, c'est le choix. Donc, je dois connaître tout. Et la science se fait sur la base du challenge des chercheurs précédents.
Audrey Célestine, quand des étudiants réclament des safe spaces, c'est-à-dire des espaces de débat pour que des personnes se sentent en sécurité émotionnellement, hein, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que les étudiants d'aujourd'hui, les étudiants aux États-Unis, pas forcément américains, mais les étudiants dans les campus américains, sont armés pour faire face à la diversité du débat?
Alors, moi j'ai tendance à penser que, je déconnecte un petit peu, hein, la notion de safe space et la notion de pluralité du débat. C'est parce qu'il y a eu davantage de pluralité dans le débat que le fait de demander, même si ça peut paraître complètement exotique vu de France, mais le fait de demander des espaces dans lesquels on se sentira tout simplement mieux sur les campus américains. Enfin, voilà, moi,
ça veut dire qu'on entendra des cours qui ne heurteront pas notre sensibilité, hein, c'est ça?
Non, il s'agit pas de ça. Il s'agit de ça peut être beaucoup de choses, des CFSU, ça peut être des clubs, des associations, ça peut être tout un tas de choses. Et moi, je pense effectivement que c'est un problème si un cours doit être un espace dans lequel des choses sont dites qui ne devraient pas heurter des étudiants, parce qu'effectivement, ce qu'on apprend en cours, c'est à débattre, c'est avoir accès à la pluralité des connaissances, du débat. Mais je veux dire, c'est aussi le métier d'un enseignant que de de prendre acte de l'évolution de la société, de l'évolution des idées, du fait que, bah, effectivement, moi, j'enseigne pas exactement aujourd'hui comme j'enseignais il y a 10 ans. Et je pense pas que ce soit une menace sur ma liberté, mais je pense effectivement qu'il y a des gens là qui vont prendre la parole qui ne l'auraient pas forcément prise de cette manière-là.
Parce qu'il faut bien préciser pour nos auditeurs, il faut bien préciser, Audrey Célestine, parce que vous avez aussi vécu aux États-Unis, que la discussion entre l'enseignant et les étudiants, c'est vraiment la base de la pédagogie américaine. Les étudiants, ils arrivent en cours, ils ont lu les livres indiqués par l'enseignant, enfin en principe, hein, vu qu'ils payent très cher l'université, en général, ils ont lu les livres, et avant de venir en cours, et ensuite, ils débattent avec l'enseignant. Ça ne se passe pas tout à fait forcément comme ça dans d'autres universités, notamment en France. Mais est-ce que du coup, c'est à cause aussi de ce fonctionnement-là que la discussion et les polémiques à l'heure actuelle sont d'autant plus compliquées?
Alors, moi, je pense que effectivement, le fait de fonder les cours sur la discussion, sur le débat, ben ça, c'est effectivement, on n'est pas juste dans une espèce de parole magistrale qui ne pourrait jamais être contestée, comme c'est souvent le cas en France, de moins en moins.
Descendant.
La France aussi, quand même, change, et on n'est pas dans ce type de parole-là. On est dans une discussion, dans un débat. L'université, c'est pas en dehors de la société. Et je pense que, enfin voilà, que dans l'ensemble de ce débat, d'une part, l'université, ça. C'est quand même de longue date un espace de contestation, des protestations contre la venue de telle personne qui va, ou des protestations contre un conflit dans tel autre endroit. Je veux dire, c'est des endroits qui vivent, des endroits dans lesquels il y a toutes ces choses-là qui se passent. Donc, ça je pense que c'est un point qui est en effet important. Et la notion d'espace sûr, elle vient aussi avec une conscience un petit peu plus forte de ce que ça peut, des formes que peuvent prendre le racisme, même quand il y a des programmes pour la diversité, le sexisme, même lorsque on a une chaire sur la question du genre. C'est aussi que l'ensemble de ces phénomènes sociaux sont complexifiés. En début d'émission, lors de l'interview
Daniel Kovalik,
états-unien, de Daniel Kovalik, les enjeux qui étaient présentés comme étant susceptibles d'amener de la cancel culture, c'est quand même les minorités raciales, les minorités sexuelles, les femmes. Enfin, c'est pas complètement un hasard non plus. Ce sont ces sujets-là. Ça correspond aussi au fait que les questions, les débats, les recherches sur ces questions sont plus importantes, que la question du sexisme et du racisme continuent d'être politisées. D'être politisé différemment. Mais je pense que ça dit aussi quelque chose de personnes qui ne sont pas habituées à ce que ces voix-là portent. Ouais. Et donc, bah, ça, il faut aussi s'y habituer et en prendre acte.
Alors, je voudrais citer un dernier exemple. L'étude du grec et du latin n'est plus obligatoire en section lettres classiques à l'université de Princeton. Certains ont crié à l'anachronisme parce que, en gros, les étudiants disaient que on n'allait pas apprendre une langue ancienne à propos de textes qui faisaient d'une société esclavagiste. Comment est-ce qu'on peut progresser, Audrey Célestine, vraiment en quelques mots, on arrive à la fin de l'émission, comment on peut progresser dans les luttes pour la justice et l'égalité des droits humains que vous avez cités, la lutte contre le racisme, le sexisme, etc., sans menacer la connaissance et la liberté du débat dans les universités, sans qu'on en arrive à une telle extrémité qui est de dénoncer l'étude du latin et du grec, par exemple, voire de dénoncer la société athénienne dans un anachronisme complet. Audrey Célestine, vraiment en quelques mots.
Parce que c'est pas de ça, précisément parce que c'est pas ça qui se passe. Précisément parce que ce qui se passe à Princeton sur les études classiques, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est toute une remise en cause par un enseignant notamment, mais dans le cadre d'un programme de recherche. Alors classique, c'est pas exactement l'histoire ancienne comme ça peut être le cas en France, mais on est face finalement à un chercheur qui essaye de revisiter ce qu'on appelle les classiques. C'est un cas qui est beaucoup plus compliqué que ça, et très souvent on le prend un peu comme exemple de l'espèce d'ignorance qu'il y aurait aux États-Unis, de vraiment on enlève
c'est brandi
la connaissance
comme une dictature
sur un sujet qui est pourtant très important.
C'est brandi comme une dictature des minorités, et effectivement c'est très agressif aussi.
Et c'est pas du tout ça qui se passe. C'est pas du tout ça qui se passe dans le contexte des études classiques à Princeton, qui sont en plus pas suivies par un nombre très important d'étudiants. Mais cette montée en épingle de sujets qu'on connaît souvent très mal dans le contexte américain, qui répondent aussi à des enjeux internes à l'université. En fait, c'est un peu le problème dans le débat sur la cancel culture, c'est que je pense qu'il y a des choses très intéressantes. Il y a eu toute une série sur cette affaire dans le New York Times il y a 2 mois et qui explique de manière manière extrêmement fine et détaillée que on n'est pas simplement dans une demande un peu primaire d'étudiants qui connaissent rien, qui comprennent rien et qui ont une vision caricaturale du passé. On est sur un programme intellectuel qui est un petit peu plus ambitieux.
Et
que
c'est
ça,
pour ça qu'on essaye d'en parler dans l'émission. Ma dernière question aussi pour vous, Alessia Lefebure, hein, comment on fait pour progresser quand même dans ces luttes pour la justice et l'égalité sans menacer la connaissance et le débat?
Alors très rapidement, les universités américaines évidemment que commencent à y penser aussi, à chercher des solutions concrètes. Ça fait plus de 20 ans qu'on a introduit maintenant dans beaucoup d'universités les global studies, c'est-à-dire que au lieu d'apprendre l'histoire de l'art du monde européen, on apprend l'histoire de l'art de tous les continents. La littérature pareil, l'histoire pareil. Mais par ailleurs, moi je crois qu'il faut vraiment, en tant qu'enseignante et dirigeante d'établissement d'enseignement supérieur, je crois qu'il faut vraiment s'attaquer au comment on enseigne le débat, la controverse par exemple, la méthode de la controverse scientifique. C'est une excellente méthode qu'il faudrait mettre en premier cycle partout pour essayer d'aider les étudiants à naviguer dans cette complexité, dans ce paradoxe entre je veux du pluralisme, je veux le respect de toutes les minorités et je dois pouvoir ne pas être froissée quand j'entends quelque chose avec laquelle je ne suis pas d'accord.
Eh bien, merci, c'est la conclusion de cette discussion extrêmement intéressante, on y reviendra. Merci à vous, Audrey Célestine, d'avoir été en ligne avec nous, sociologue spécialiste des États-Unis à l'Université de Lille. Et merci à Alessia Lefebure, sociologue spécialiste des politiques de l'enseignement supérieur. Dans quelques instants, chez 7 milliards de voisins, ce sera la chronique du psychologue Ibrahim Haïdara, les conseils aux parents, juste après les vibrations congolaises de Fally Ipupa et Nino.
Donnez-moi ça jusqu'au matin, donnez-moi ça jusqu'au matin.
Jusqu'au matin, bébé.
Surtout y'a là-bas des tabous. Allez, montre-moi tes tatous.
Tout est tatou caché près de moi. Viens près de moi, bébé.
Nala léli 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 léli.
Y'a
léli léli léli
léli.
Tout ça. Y'a léli 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 léli.
J'aime ça.
Léli léli léli.
Fouquet, Christian, Dior, elle veut ça.
Plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, c'est la chronique du psychologue des conseils pour les parents, sur la famille, sur l'éducation des enfants, à retrouver aussi en podcast. Bonjour Ibrahim Haïdara.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychologue à Bamako. Aujourd'hui, vous souhaitez vous exprimer sur les familles recomposées, à ne pas confondre avec les familles polygames. Les familles recomposées, c'est un remariage après un divorce. Comment les enfants de familles recomposées vivent cette nouvelle configuration familiale?
Cette nouvelle configuration familiale va forcément donner une autre dimension psychologique aux différents membres du nouveau foyer ou de cette nouvelle union. Donc, c'est-à-dire le père, la mère, les enfants, tout le monde va subir les conséquences ou en tout cas vivre autrement cette nouvelle union, cette nouvelle configuration familiale. C'est-à-dire, par exemple, que l'homme remarié, s'il a un ou des enfants d'une union précédente, il sera amené à faire face à sa nouvelle épouse et aux éventuels enfants de cette dernière, qui peut aussi avoir des enfants d'une précédente union. Donc, ça va être vraiment une sorte de mélange de personnalités dans des contextes totalement différents. Et si on ne fait pas attention, qu'est-ce que les enfants vont adopter comme attitude, ils peuvent adopter une attitude de méfiance parce qu'ils vont observer une sorte de différence de traitement à leur égard. On va les distinguer des enfants du nouveau couple. Et ça, c'est les premiers témoins, les premières victimes, c'est eux qui savent comment ils le vivent difficilement.
Et le nouveau foyer avec des parents remariés prend en compte le lien affectif de l'enfant de parents divorcés. Est-ce que c'est parfois un peu la double peine? Non seulement ils ont vécu le divorce, mais en plus il y a le remariage d'un des parents.
Exactement, c'est une double peine. On va parler ici d'un facteur important, c'est-à-dire ce lien affectif qui existe entre un enfant et son parent biologique. Parce que le parent divorcé, il reste parent divorcé et l'enfant reste l'enfant du parent divorcé. Donc, quelle que soit la composition ou la recomposition du foyer, l'enfant va avoir une relation affective avec ses parents biologiques, même s'ils sont divorcés. Et l'enfant a naturellement besoin de son père, comme de sa mère. Il faut qu'on s'en souvienne. Mais quand les parents sont divorcés, ceci peut entraîner ce que moi j'appelle une sorte de distanciation naturelle qui peut être momentanée ou très longue entre un enfant et ses deux parents ou entre un enfant et un de ses deux parents. Et c'est ce qui peut causer chez l'enfant une sorte de déséquilibre affectif, psychologique, voire même comportemental, si les parents ne sont pas très vigilants, parce qu'ils oublient que l'enfant est coupé naturellement ou est éloigné de son parent biologique. Malheureusement, les parents ne prennent pas en compte cet aspect et se focalisent plus sur leur nouveau conjoint
que sur leurs enfants. Ils sont en train de réécrire une histoire.
Exactement, ils écrivent ou réécrivent une histoire.
Alors, comment prendre en compte les besoins de l'enfant pour qu'il ne soit pas de nouvelles victimes quand ils intègrent une nouvelle famille ?
Alors, je vais insister sur un point. On a parlé de ce lien affectif. Donc, moi, je dis, vu que le lien affectif entre l'enfant est brisé à un premier niveau compte tenu de l'éloignement avec un de ses deux parents, donc le divorce ou la séparation, il faut essayer de le reconstruire, ce lien affectif, quand l'enfant intégrera sa nouvelle famille. Il ne faut pas qu'on se dise, ça y est, il a une nouvelle famille, donc il oublie tout ce qu'il a vécu depuis sa naissance. Et ça, ce n'est pas du tout évident. Parce qu'il arrive malheureusement des situations où la mère non biologique, qui est la nouvelle épouse du père de l'enfant, peut interdire à l'enfant d'avoir accès à sa mère biologique, ou vice-versa. Et ça, c'est très traumatisant. Et n'oublions pas que du coup, il y a une sorte de jalousie et de confrontation invisible qui va prendre naissance entre les deux épouses, c'est-à-dire l'ex-épouse et la nouvelle. Elles sont dans une guerre qui va prendre naissance et l'enfant va être victime de cette guerre.
Et pourtant, on est dans une famille recomposée et pas dans une famille polygame, voilà. Ce qui n'empêche pas les conflits. Des conseils pour préserver les enfants dans les familles recomposées.
Premier conseil, très important, c'est de ne jamais traiter différemment l'enfant issu d'une autre union. Il ne doit pas être un étranger, par exemple. Il ne doit pas être différencié par rapport aux autres enfants du couple recomposé. Il faut éviter de dénigrer l'autre parent externe en présence de l'enfant. Ça, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus. On ne se gêne pas en tant qu'adulte de dénigrer l'autre parent, le parent biologique de l'enfant. Les parents du nouveau foyer doivent se dire que l'équilibre psychologique de tous leurs enfants, que ce soit les enfants nés du couple recomposé ou des enfants issus du divorce, des parents et des familles divorcées, ils vivent dans cette famille recomposée et tout l'équilibre ne dépendra que de la bonne conduite en tant que parents. C'est à eux d'équilibrer, de faire en sorte que tout se passe très bien.
Aux parents de bien se conduire. Merci Ibrahim Haïdara. Chroniques sont à réécouter en podcast. Les voisins et les voisines, vous retrouvez toutes les chroniques parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Le lien est d'ailleurs sur la page des 7 milliards de voisins sur le site internet rfi.fr. Et demain, 7 milliards de voisins, à l'occasion de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Tokyo, eh bien on va découvrir pourquoi et comment certains pays dominent depuis des années certaines disciplines sportives. Les Chinois au ping-pong, les Coréens au tir à l'arc, les Américains au basket, les Kenyans à la course d'obstacles et beaucoup d'autres. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Delphine de Dianous, Juliette Brault, Romain Dubrac. C'est David Braquet aujourd'hui. Et bien sûr, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, vous pouvez podcaster toutes nos émissions. À demain.